CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui sur CFM Lacaune, je vous propose de nous intéresser aux sites Natura 2000 qui sont présents près de chez nous et qui sont notamment gérés par le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Aujourd'hui, je suis avec Juliane Casquet qui est animatrice Natura 2000 pour le parc. Bonjour Juliane, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, on vous avait déjà reçu une première fois pour parler de la vallée de l'Arne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la basse vallée du Lignon, qui est un site Natura 2000, je crois, qui est une zone assez étroite, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, ça va. Mais avant de vraiment parler de cette zone très spécifique du parc, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une zone Natura 2000 ?
Oui, pas de souci. Alors, une zone Natura 2000, c'est des zones qui ont été définies un peu partout en Europe. Donc, c'est un concept qui est européen, qu'on va trouver dans tous les États membres de la communauté européenne. Et ils ont été définis, en fait, de par la présence d'espèces ou d'habitats naturels remarquables, soit qu'ils soient protégés, soit qu'ils soient particulièrement rares.
Alors, ces zones Natura 2000 n'ont pas forcément une réglementation spécifique. On peut s'y promener comme on le souhaite. Il y a une activité humaine normale sur ces zones-là.
Voilà, tout à fait. C'est pas comme des réserves. Hein. Les zones Natura 2000, ça couvre à peu près 10%, un peu plus de 10% du territoire français. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 10% du territoire français, on n'a pas le droit de se promener. Donc, c'est des endroits dans lesquels il continue à y avoir des activités humaines et il y a effectivement très peu de réglementations spécifiques au fait d'être dans une zone Natura 2000.
Alors, depuis quand les zones Natura 2000 existent-elles ? Est-ce que ça fait un moment ?
Alors, comme leur nom l'indique, hein, les zones Natura 2000, ça a commencé à être un peu mis en place aux alentours des années 2000. C'était pas forcément 2000 tout pile. Après, ça a mis un petit peu de temps à, comment dire, les zones ont été désignées assez rapidement, quelles étaient les zones importantes. Mais elles ont mis un peu plus de temps à être vraiment gérées parce qu'il a fallu pour chaque zone Natura 2000 définir ce qu'on appelle un document d'objectif. Donc, c'est un peu comme un plan de gestion. Ça a été défini en concertation avec tous les acteurs locaux. Et pour parler de notre territoire, par exemple, les premiers documents d'objectifs ont été mis en place en 2004. C'était en Montagne Noire, pour le coup, et sur le Causse de Cocalière. Et le plus récent, si je me souviens bien, c'est 2012.
D'accord, donc quand même, on voit que je vous posais cette question parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que ces zones-là sont du coup étudiées, observées et on a des données sur ces zones-là. Donc pour certaines zones, c'est une vingtaine d'années de données très spécifiques qui sont obtenues et qu'on a en archivage.
Oui, tout à fait, oui. C'est des zones qu'on suit de près et il y a toujours sur chaque site Natura 2000 ce qu'on appelle un animateur ou une animatrice. Donc là, c'est mon rôle, par exemple, pour le parc du Haut-Languedoc, dont le rôle est de mettre en place les actions de ce fameux document d'objectif, donc ce fameux plan de gestion dont je parlais. Et effectivement, pour les plus anciennes, hein, depuis 2004, c'est ce qui est fait tous les ans.
Alors, on va venir maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la basse vallée du Lignon. Alors, bien sûr, il faut que vous nous le situiez sur une carte parce que on voit pas forcément où c'est que c'est. C'est dans le Tarn, je crois.
Oui, c'est dans le Tarn. C'est un tout petit site Natura 2000. C'est un des plus petits qu'on anime. Il ne fait que 56 hectares et il se situe sous la cheval sur les communes de Burlat et La Crouzette. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, vous avez ce qu'on appelle le saut de la truite, donc sur la commune de La Crouzette, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Et la basse vallée du Lignon, ça se situe entre le saut de la truite et la confluence entre le Lignon et la Goutte. Donc ça fait à peu près 2 km de cours d'eau et quelques centaines de mètres de part et d'autre du cours d'eau, donc sont pris dans l'emprise de la zone Natura 2000.
Et pourquoi cette zone-là spécifiquement, puisque en plus c'est une zone assez difficile d'accès, je crois?
Oui, justement, de par le fait qu'elle soit difficile d'accès et assez escarpée, on y trouve des habitats naturels qui sont pas forcément fréquents ou du moins pas fréquents à cet endroit-là. Par exemple, c'est le dernier endroit en France où on va trouver les dernières landes sous influence méditerranéenne. Donc ça, c'est vraiment sur les crêtes hein, de la basse vallée du Lignon. Et on va trouver des formations végétales qu'on trouve dans la zone méditerranéenne plus à l'est. Mais si on va vers l'ouest, on les trouve plus du tout. Donc ça veut dire que c'est la limite d'aire de répartition, le dernier endroit où on va trouver certaines espèces de plantes, par exemple, typiquement méditerranéennes.
D'accord. Ça me paraît assez surprenant parce qu'on est quand même dans le Cidobre, qui n'est pas du tout une zone méditerranéenne, finalement. Mais en fait, on se trompe.
C'est ça, mais c'est vraiment sur une surface qui est toute petite et qui est, comme je le disais, une zone de crête qui est une exposition très particulière. Et voilà, du haut relief, on trouve vraiment c'est les limites d'air de répartition. Bien sûr, on n'est pas dans la Méditerranée, dans le Cidobre, mais on trouve certaines espèces-là qu'on va plus du tout retrouver quand on va plus à l'ouest. Donc ça, c'est la première raison qui a motivé, en fait, le fait de nommer ce site Natura 2000. Et c'est aussi un site, comme on l'a dit, qui est très escarpé. Donc on trouve, par exemple, des forêts de pentes. Donc ça, c'est des types de forêts qu'on va trouver que sur des pentes importantes, qui du coup sont pas forcément très fréquentes, et on en trouve quelques hectares dans ce site Natura 2000-là.
Donc sur ce site-là, particulièrement, ça va être plutôt une biodiversité de plantes qui va être spécifique plutôt que de la faune, je suppose.
Alors, il y a un peu des deux. En termes de biodiversité de plantes, en soi, ce qu'on y trouve, c'est pas tant des plantes qui sont rares, c'est juste que c'est le dernier endroit où on va les trouver.
D'accord.
Donc, c'est plutôt ça qui est spécifique. Même s'il y a apparemment, d'après les spécialistes que je ne suis pas, hein, certaines espèces de fougères rares qu'on peut retrouver là. Donc, c'est plutôt le fait que c'est la limite d'aire de répartition qui est intéressante. Mais on trouve aussi des espèces rares ou protégées dans ce site.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, peut-être?
Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs un peu, espèces un peu emblématiques de ce site-là. La première que je peux citer, c'est un poisson qu'on appelle la lamproie de planeur. Donc, les lamproies, et c'est un poisson protégé qui est pour le coup assez rare et il reste une belle population de lamproie de planeur sur la partie du Lignon, donc qui est, comme je le disais, entre le saut de la truite et la confluence avec la goutte. C'est des poissons qui sont pas du tout recherchés par les pêcheurs, hein, parce qu'ils sont petits et il n'y a pas grand-chose à bouger dessus, en gros. Et de toute manière, ils sont protégés, mais voilà, ça fait partie des espèces emblématiques du site.
D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent peut-être parler à certaines personnes? Moi, j'avoue que cette espèce-là de poisson, je ne connaissais pas du tout.
Ouais, elle est pas très connue, effectivement, et elle est pas forcément très fréquente. Dans ce qui pourrait peut-être un peu plus parler, comme on a beaucoup de forêts, je l'ai dit, de part et d'autre de ce cours d'eau, on trouve des insectes vraiment très spécifiques de ces milieux forestiers. On va par exemple y trouver le grand capricorne ou le lucane cerf-volant. Alors ça, on peut le voir par exemple lors des belles soirées d'été quand on mange dehors. Ça arrive qu'il soit attiré par la lumière. C'est vraiment un très très gros coléoptère, très impressionnant, complètement inoffensif, hein, mais qui vole à cette période-là pendant l'été et dont les larves se nourrissent de bois mort, donc ont besoin de vieilles forêts de feuillus en fait pour pouvoir se développer. Et on trouve aussi dans ce site-là des gîtes d'hibernation, notamment de certaines espèces de chauves-souris qui sont devenues assez rares.
CFM Lacaune, le mag.
Merci d'écouter le mag, c'est une seconde partie d'émission consacrée à la zone Natura 2000 de la basse vallée du Lignon qui est gérée par le parc naturel régional du Haut-Languedoc et je suis avec son animatrice Juliane Casquet, merci d'être avec nous. J'en profite aussi pour rappeler qu'on fait vraiment un mois de février spécial de zone Natura 2000 avec tous les mardis une zone gérée par le parc naturel régional du Languedoc qui est mise en avant. La semaine dernière, on parlait de la vallée de l'Arne. Ça, c'était donc pour resituer. Alors, Juliane, on continue à parler de cette basse vallée du Lignon. On a parlé de sa faune un peu spécifique, du fait aussi qu'elle était toute petite, qu'elle était vraiment sur une zone un peu inaccessible, ce qui en faisait sa spécificité, que c'est aussi le dernier endroit où l'on trouve des plantes méditerranéennes, par exemple. Je vous invite à réécouter la première partie de cette émission. Mais vous me disiez aussi qu'elle était située vraiment pas très loin du saut de la truite. C'est quand même un endroit assez touristique. Alors, est-ce que ça pose pas de problème?
Il y a un peu le mélange des deux sur ce site, ce qui le rend assez particulier. Il y a effectivement tous les alentours du saut de la truite qui sont très fréquentés et assez faciles d'accès. Et tout le reste est très sauvage, il n'y a pas de sentier là-dedans, et c'est vraiment à préserver tel quel, en fait. C'est pas du tout un endroit où on inciterait les gens à y aller, déjà, parce que c'est vraiment dangereux et difficile d'accès, hein. Il y a des éboulements partout, et ainsi de suite. Et c'est pas, pour les non-spécialistes, c'est pas forcément particulièrement intéressant d'aller se promener dans un endroit très pentu et très, très envahi par la végétation, quoi. Donc il y a un peu la coexistence entre une zone qui est très touristique, très fréquentée, et une zone qui est beaucoup plus sauvage dans ce site.
Et alors sur ce site, il y a des travaux qui ont été entrepris et qui ont été réalisés récemment?
Oui, alors pour ceux qui connaissent le secteur, ils ont pu remarquer en fait qu'à proximité du saut de la truite, il y a eu un glissement de terrain. Donc ça, c'était en mai 2020. Le glissement de terrain, il est allé en partie sur la route. Donc cette partie, vraiment, dégager la route pour permettre aux gens qui vivaient au hameau juste après de continuer à circuler, ça a été fait. Il y a eu des travaux aussi qui ont été faits un peu plus récemment sur le fait d'enlever tous les troncs d'arbres qui s'étaient accumulés à cause de ce glissement de terrain sur le pont et qui faisaient pression sur le pont en cas de crue. Donc ça a été retiré. Mais il n'empêche que le glissement de terrain, forcément, est toujours là. Il y a toujours cette zone mise à nu. Et ça fait qu'à chaque pluie, il y a des sédiments, donc de la terre qui se retrouve à couler dans le cours d'eau. Or, comme j'ai dit, dans ce cours d'eau, il y a une espèce de poisson protégé, qui n'aime pas vraiment quand il commence à y avoir beaucoup de terre dans la rivière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec le propriétaire de la zone concernée par glissement de terrain, en l'occurrence sur la partie basse, c'était EDF, pour monter ensemble un dossier de demande de financement pour pouvoir faire des travaux qui permettraient de stabiliser le glissement de terrain et de limiter la chute de sédiments dans le cours d'eau. Donc bah, c'est un peu une exclusivité que je vous donne, hein, mais on a obtenu le financement pour ça. Donc les travaux vont pouvoir commencer prochainement, là en 2022. Donc pour les gens qui connaissent la zone, ils pourront voir qu'il y aura de la stabilisation qui sera faite et aussi des panneaux d'information qui seront posés à la fois sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau du glissement de terrain et qu'est-ce qu'on a fait, mais aussi sur la zone Natura 2000 en tant que telle.
Oui, parce que le rôle aussi d'animatrice que vous êtes, c'est de vraiment être là pour expliquer, pour apporter de l'information et puis pour empêcher aussi que n'importe quoi soit fait sur ces zones-là.
Oui, oui, complètement. On a vraiment ce rôle d'information, de communication, que ce soit auprès des professionnels comme auprès du grand public. D'ailleurs, l'année dernière, on a organisé à Burlat une fête de la chauve-souris. Donc, c'était une première édition. Hein, c'était pour tester. Ça a très, très bien marché pour informer les habitants de Burlat du fait qu'il y avait ce site Natura 2000 sur leur commune et qu'un des enjeux de ce site Natura 2000, c'était la présence de chauve-souris.
Et est-ce que finalement les gens étaient au courant? Parce que l'événement a eu un succès, mais est-ce que finalement les sites Natura 2000 sont connus comme tels par la population ou pas forcément?
Plutôt pas forcément. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience, pour certains même, d'habiter dans un site Natura 2000. Donc ça, voilà, c'est du travail de communication un peu de fond, hein, à faire régulièrement. Alors pour le site de la Basse-Vallée du Lignon, c'est particulier parce que comme la surface est toute petite, on connaît bien les propriétaires qui sont soit la commune, soit EDF, soit un propriétaire privé. Donc là, forcément, on le connaît, on est en lien avec lui. Mais on anime aussi des sites beaucoup plus grands. Les autres sites du Tarn font plutôt plusieurs milliers d'hectares. On anime un site dans le Minervois qui fait environ 30 000 hectares. Là, c'est de la communication vraiment de fond et de beaucoup plus longue haleine pour faire en sorte que les habitants soient au courant des enjeux du territoire sur lequel ils habitent.
Et est-ce qu'il y a une certaine fierté à se dire qu'on habite dans une zone où la biodiversité est quand même belle, préservée et où il faut aussi continuer à la préserver? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un côté fierté? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi, je trouve que c'est pas mal de se dire qu'on est dans un lieu un peu unique.
Oui, c'est un peu ce qu'on essaye de créer comme réaction quelque part, parce que souvent, ça arrive assez régulièrement que les personnes voient Natura 2000 comme quelque chose qui leur a été imposé, on leur a pas posé la question, et ils se disent, du jour au lendemain, on m'a dit, vous habitez dans une zone Natura 2000, ils ont peur des contraintes, etc. Et c'est vraiment par la communication, par la discussion, qu'on arrive à leur faire se rendre compte qu'en fait, c'est pas des contraintes qui sont rajoutées, c'est simplement un label quelque part qui dit, effectivement, chez vous, la biodiversité, elle est exceptionnelle, elle mérite d'être préservée. Et c'est vrai que dès qu'on a cette discussion, on arrive à créer ce sentiment de fierté, qui est très important et qui, je trouve, est très vrai. On a la chance, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est notre jardin quelque part, mais de vivre sur un territoire avec une biodiversité absolument exceptionnelle. Je vous citais le cas des chauves-souris, par exemple. Bah, imaginez, sur le territoire du parc, il y a 27 espèces de chauves-souris sur les 35 qui existent en France. Donc, on a vraiment une biodiversité exceptionnelle chez nous. Et c'est simplement de par la discussion et la communication que les gens finissent par se rendre compte et par de même développer ce sentiment de fierté, d'appartenance à ce territoire.
Ben alors moi, ce que je vous invite à faire, très chers auditeurs, si vous avez envie de découvrir ces zones Natura 2000, notamment gérées par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, il y a une page Facebook qui existe et bientôt un site internet. Est-ce que vous pouvez nous redonner les infos pratiques?
Alors pour nous contacter ou pour avoir des informations sur ce qu'on fait, le mieux c'est la page Facebook. Donc elle s'appelle Site Natura 2000 du Haut-Languedoc, site au pluriel. Et là, on poste une fois par semaine ou deux fois par semaine des actualités sur ce qu'on fait sur nos sites. Et on aura donc un site web qui sera mis en place très prochainement. Et ça, on l'annoncera bien sûr via la page Facebook notamment.
Je vous remercie vraiment, Juliane Casquet, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes animatrice Natura 2000 pour le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et si vous êtes intéressé par ces zones Natura 2000, vous pouvez réécouter des émissions qui ont été faites tout simplement sur cfmradio.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.
Au revoir.